R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Merci Alice, je suis d'autant plus heureuse d'être ici que j'ai failli ne pas y être. Puisqu'un chevreuil a malheureusement pour lui croisé la voie d'un Thalys, il s'en est mal tiré, mais le Thalys, lui, a dû récupérer. Enfin, ouf. Et merci à Alice pour nous avoir tous conviés ici, mais aussi pour DDD, ding dang dong. Je dirais parfois DDD parce que... ça va peut-être plus vite, et puis je l'ai noté comme ça. ce groupe qui se réunit pour essayer de créer, coproduire, mais c'est co-créer, je pense aussi, du savoir autour de la maladie de Huntington. Et je parle bien de création et non pas d'un savoir de type scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est un savoir moins sérieux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un savoir qui fait tout pour produire de la pertinence, ça veut dire que cela appartient peut-être à ce genre que Donna Haraway a mis sous le signe non pas seulement de la science-fiction, mais d'une série de termes qui répondent au même sigle SF. SF, c'est un des sigles de la science-fiction. Mais SF, pour elle, ça veut dire aussi fiction, speculative fiction. Fiction spéculative, l'anglais et le français, comment dirais-je, ne procèdent pas aux mêmes ordres. Mais aussi, pour elle, féminisme spéculatif. Mais aussi, plus étrangement, et j'y reviendrai, fait scientifique, scientific fact. FS, SF. Et puis finalement, string figure. Alors je vais vous parler des string figures, qui en français a été traduit par soin des ficelles. Je vous en parlerai. Ou soin de la ficelle. Et finalement, so far. So far, j'aime beaucoup. So far, c'est jusqu'ici. Comme on dit, jusqu'ici, ça marche. Jusqu'ici, ça tient, mais sans garantie. C'est-à-dire que c'est contre à la fois l'idée de garantie et de destin. Je crois que so far, c'est quelque chose dont chacun d'entre nous peut se dire notre vie est toujours quelque part sous le signe du jusqu'ici. Jusqu'ici, ça tient. Je vais revenir aux string figures, figure du jeu de ficelle. Vous connaissez tous, c'est tous le jeu de ficelle. On a tous fait ça quand on était petit. Dans d'autres peuples, c'est un jeu très sérieux. C'est pas un jeu du tout. C'est une narration cosmologique. Mais chez nous, en général, au plus simple, ça se joue avec deux mains. Deux fois deux mains. La première paire constitue d'abord un motif. Comme ça. Et puis l'attend à une autre paire de mains qui vient intervenir dans le motif et créer un nouveau motif qu'elle tendra à la première paire qui réinterviendra. Et puis moi, je ne sais pas aller plus loin, j'ai oublié. Mais cela peut donner beaucoup de choses, de motif en motif, d'offre en prise, d'offre en réponse. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette figure de ficelle, c'est que le motif est toujours proposé par l'un à d'autres. On pourrait dire qu'il n'est pas maître de ce que les autres mains feront de ce qu'il propose. Mais sans ce motif offert, rien n'aurait pu être fait. L'autre motif est donc à la fois d'une certaine liberté par rapport au premier, mais redevable au premier pour sa possibilité même. C'est une figure multiple que je vais essayer de faire jouer au cours de cet exposé. Cette figure du jeu de ficelle où un motif se propose pour la recréation d'un autre motif qui le suit mais ne peut pas être déduit de lui, ne lui obéit pas. Quelque part, DDD constitue un jeu de ficelle, ding ding dong, un jeu de ficelle, se tisse des motifs à partir d'un motif premier qui est, lui, dérivé d'un fait scientifique, SF. Ce fait scientifique, il est, comme tout fait scientifique, il semble autosuffisant, et pourtant, justement, il va s'agir de tirer des motifs de ce motif. Il existe une corrélation, et même une corrélation d'ordre 1, c'est-à-dire la plus forte des corrélations, ce n'est pas une causalité, entre un marqueur génétique repérable désormais et le développement à terme de cette maladie à laquelle le docteur Huntington a, enfin, qu'il a repéré et qu'il a caractérisé en 1872. Je ne crois pas qu'à l'époque il lui a donné son nom, mais c'est venu après. Corrélation, je l'ai dit, c'est-à-dire si le marqueur est repéré, alors. Mais corrélation n'est, comme on dit toujours, pas raison. Une corrélation ne dit pas que le motif génétique explique cette maladie ou son développement. Au contraire, on peut dire que autour de ce SF, de ce fait scientifique, il y a une corrélation. Des pourquoi s'accumulent. Pourquoi des codons, en fait codons, ces trois acides aminés, CAG, tendent à se répéter, c'est-à-dire sont de nombres si variables dans des séquences, dans un des chromosomes extraordinairement variés. Pourquoi en dessous de 35 répétitions il n'y aura pas de problème à partir de 40. On peut prédire le développement de la chorée à terme, si la personne vit jusque-là. Pourquoi la maladie se développe à tel moment et pas un autre? Pourquoi prend-elle cette forme-là, forme très diverse? Pourquoi? Certains de ces pourquoi, les sciences apporteront sans doute, peut-être, des élaborations intéressantes. Il reste que, autant qu'on en apprendra, j'ai personnellement des doutes certains quant à l'idée qu'on viendra à pouvoir parler d'une cause de la maladie de Huntington, d'une relation cause-effet. On peut avoir pris la main dans le sac, quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un responsable. Mais c'est un responsable un peu comme une allumette craquée et responsable d'un feu de forêt. L'allumette n'aurait rien fait s'il avait justement plu. Une bonne pluie et l'allumette n'est plus responsable de rien. Donc, c'est qui dit responsable dit si toutes les autres circonstances se prêtent à ce que cette acte et des conséquences. Et ici, c'est toute la question du corps, de ce à quoi le corps est sensible, de comment il est sensible, qui vient brouiller l'idée de cause-effet. Et donc, nous sommes face à la question d'une sensibilité étonnante du cerveau par rapport à une différence qui frappe une protéine. C'est sans doute seulement quand on sera devenu beaucoup plus intelligent sur les plis et les replis des manières de discuter de comment comprendre le cerveau qu'on pourra aller plus loin qu'une corrélation. Il reste que cette corrélation, ce motif, il y a une corrélation, a eu de grosses répercussions, d'énormes répercussions, parce que ce qui a suivi, le premier motif qui a suivi et qui était d'ailleurs déjà porté par la recherche de la corrélation, c'est le test, la possibilité de prédire. Comme Alice vous l'a dit, la maladie de Huntington court dans les familles, donc on savait que c'était génétique et on savait que ce serait probablement une mutation et pas à une constellation génétique, floue. Et c'est ici que DDD arrive. Après cette double, enfin, c'est ici. c'est par rapport à ce second motif, non pas l'inconnu, les inconnus auxquels les sciences pourront enrichir, faire rebondir, produire leur créativité propre de cette corrélation, mais le premier motif qui en est sorti, c'est-à-dire la prédiction, le test. Le test demandé, le test éventuel, le test donnant la réponse. Alors, et Catherine et Alice vous ont dit, ce test peut, s'il se donne comme pure répétition du diagnostic, sonner comme une malédiction. Et l'un des rôles de DDD a été de susciter d'autres voix qui font d'autres motifs, qui produisent autre chose à partir de cette possibilité de prédire. Il y a eu la voix de Catherine, qui vous en a parlé la fois passée, et qui a insisté sur le fait que elle a même parlé des oracles du passé, sur le fait qu'un diagnostic, et un diagnostic cruel, difficile à entendre, peut, comment dirais-je, a besoin de ce qu'elle a appelé une écologie, c'est-à-dire un ensemble de conditions qui font que, le diagnostic étant communiqué, de la vie pourra continuer. De la vie pourra continuer. Elle a rappelé la pitié. C'est-à-dire que pour que la pitié puisse fonctionner, l'oracle des Grecs à Delphes, il fallait toute une série de conditions remplies. Des conditions quant à la possibilité pour la pitié de parler pour Dieu sans se laisser dévorer par Dieu. Ici, on pourrait dire des possibilités pour les médecins de parler pour la science sans se laisser dévorer par la science. Et toute une armée d'interprètes de ce que disait la pitié, d'interprètes qui tirent des motifs et des motifs et des motifs, d'autres motifs, c'est-à-dire que ce que la pitié disait était toujours de l'ordre d'une énigme à déchiffrer et à interpréter, et non d'un verdict qui frappait. Et dans le même sens, venant non de l'histoire, mais de sa pratique, Maud Christen, dont vous trouverez la lettre sur le site Ding Ding Dong, a écrit de manière fictive à un médecin que ce médecin devait, par pitié, savoir que ce qu'il dit peut effectivement être une malédiction. C'est une épreuve pour ceux à qui vous l'annoncez. Mais ce n'est pas un verdict. Ceux à qui vous l'annoncez, je cite, je l'ai noté, c'était beau, pourront en faire quelque chose qui ne vous regarde pas, quelque chose sur lequel vous n'aurez aucun contrôle et qui commence aujourd'hui, après vous, docteur, après vous. Vous retrouvez ce motif de la main tendue, des deux mains tendues, tendant un motif. Il faut que ce qui est tendu par le médecin, deviennent motif de reprise, et non arrêt, c'est comme ça, deviennent motif de reprise, et que ce qui est repris, le médecin qui tend ses mains et sa ficelle, sache que cela ne lui appartient pas. Mais là encore, il faut une écologie de la reprise. Il faut justement, comme pour l'énigme de la pitié, il faut un milieu. Un milieu, ding ding dong, essaye de préfigurer ce milieu où ce type de diagnostic peut être repris, peut être mis non pas en fiction, mais en mode SF, annonçant justement le possible, faisant valoir les inconnus, faisant valoir surtout la multiplicité des manières de reprendre la situation. Enquêtant sur cette multiplicité. La malédiction, au fond, c'est mal dire. C'est pas méchant, c'est pas forcément malveillant, c'est mal dire, mal parler. Mal dire, faire comme si on savait, voire croire qu'on sait, et employer des mots qui transmettent ce savoir comme si les autres doigts n'existaient plus, comme si le motif était autosuffisant, et qui donc, de fait, détruisent la capacité de reprise. À DDD, on s'est beaucoup occupé de cette fameuse anosognosie, un terme très, très scientifique pour dire quelque chose qui ne l'est pas fort. Je vais vous dire pourquoi. Moi, ça ne m'a pas du tout impressionné. Que les malades un peu avancés de Huntington ne se rendent plus compte, pas compte, de ce qui leur arrive, d'à quel point ils sont devenus différents. Ce qui veut dire que l'on, puisqu'ils ne se rendent pas compte, eh bien, ça veut dire qu'on peut parler d'eux en leur absence. Ils ne sont plus des interlocuteurs. Ça veut dire que se forme autour de cette idée un milieu éminemment malsain où on ne peut plus parler à la personne, où on va parler de la personne et où cette personne saura qu'on parle d'elle, mais que quelque part, elle a cessé d'exister pour les autres. Ça, c'est un type de malédiction portée par un mot apparemment technique. Bien, à Ding Ding Dong, nous avons vraiment pratiqué la production de savoir récalcitrant, je dirais même créatif et joyeux à propos de cette anosognosie. On rit beaucoup quand on parle d'anosognosie désormais. Et moi, j'étais toute prête à rire. Je vous donne un et ça va bientôt entrer dans la science-fiction. Et ce fait que j'ai étudié l'histoire qui va du magnétisme à la fin du 18e et 19e siècle. Le magnétisme, vous avez entendu parler des magnétiseurs, des personnes magnétisées, à l'hypnose. Depuis la fin du 19e, du 18e et jusqu'à ce que l'hypnose occupe toute la scène, au nom de la science, le magnétisme était un mystère. Un mystère que certains, en tout cas, associé à l'apparition de facultés que nous dirions maintenant paranormales, voyance, divination, etc., que l'on croit ou pas, les personnes magnétisées formaient couple avec leur magnétiseur, un couple assez fascinant et pas du tout semblable aux psychiatres ou aux scientifiques et la personne soumise qui est devenu pour lui matière à science et auquel il fait faire des choses stupides, manifestant la soumission hypnotique. Il y a eu une destruction de l'écologie du magnétisme, de toute cette culture qui permettait à ces personnes remarquables d'apparaître et d'exister pour devenir de la matière à science, à démonstration, deux cultures différentes. Deux écologies différentes pour, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est le même à partir de ces deux écologies? Je crois qu'on devrait plutôt dire que dans ce cas, dans le cas probablement de la maladie d'Huntington, comme dans le cas de l'hypnose et comme dans beaucoup d'autres cas qui relèvent de ce qu'on appelle le psy, on ne sait pas, ne signifie pas du tout « on manque de savoir ». On ne sait pas parce qu'il n'y a rien à savoir indépendamment du milieu où se cultivera ce X qui n'a pas de définition positive indépendamment de ce milieu. De la même manière que de manière plus générale, un humain par exemple, n'a pas de définition véritablement positive indépendamment du milieu où il grandit. Un humain séparé d'un milieu qui lui permet de devenir humain, on sait ce que c'était, hein, c'était les enfants loups qui couraient à quatre pattes et partageaient l'écologie des loups. C'était des loups plus ou moins bricolés. Ça s'appelle penser par le milieu. Ça ne veut pas dire que l'hypnose ou la maladie d'Huntington sont simplement, n'oubliez pas, motifs, prises. Jamais de cause à effet, jamais de conséquences directes là. Ce ne sont pas simplement des reflets de ce que le milieu en pense. Ce sont des rencontres avec un milieu. Cela se nourrit de son milieu, mais ça se nourrit sur son mode propre. les différentes maladies psy ont chacun leur style. Mais ce style a besoin d'un milieu pour explorer ce dont il peut devenir capable. Et ce milieu peut aussi réduire, sans le savoir, à néant, ce dont il pourrait devenir capable. C'est en fait la science-fiction qui m'a pensée par le milieu, c'est une expression de Gilles Deleuze, mais comme beaucoup d'expressions de Gilles Deleuze, on peut la faire quelque chose de très compliqué, de très fascinant, ou bien comme il l'espérait, je crois, le prendre comme un motif, d'où, à partir duquel, avec lequel penser. Et c'est la science-fiction qui m'a aidée à prendre l'idée de penser par le milieu comme véritablement un outil de pensée ou un motif de pensée. Anne McCaffrey, en 1973, a écrit quelque chose qui s'appelle « Le vol de Pégase ». Et c'est la première fois que je me suis dit « Mais non, d'une pipe, ces gens parlent mieux de science que les philosophes et autres épistémologues, etc. » Il s'agit d'un monde qui pourrait être le nôtre, en tout cas. La question des dons paranormaux, elle est toujours nulle part. Elle est toujours nulle part, c'est-à-dire que ceux qui ont des dons sont entourés de scepticisme, de mépris, sont pris pour des charlatans. Ceux qui savent qu'ils ressentent ou savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir sont extrêmement malheureux, ne comprennent pas ce qui leur arrive, sont des ratés dans un milieu hostile. Et puis, il va se produire un petit événement. Un petit événement, un encéphalogramme de type nouveau, nous sommes dans la fiction, hein. Un encéphalogramme de type nouveau va un peu par hasard tracer un tracé qu'il n'a jamais eu, un tracé typique, un peu comme le marqueur génétique, vous savez, au moment où Henri Darrow, qui est un précog, donc qui a un talent de précognition, et a été accidenté sous son encéphalogramme, est touché par Molly, l'infirmière, qui est une main guérisseuse, et il sait qu'il va l'épouser. Et la bulle marque l'événement psy, c'est-à-dire l'événement de précognition. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai appelé une corrélation. On ne comprend toujours pas pourquoi ce don dans cette histoire, ce n'est pas la science, au sens de l'explication scientifique, qui permet de donner son milieu à ses talents. Ce n'est pas du tout la science, une simple corrélation, mais cette corrélation change l'écologie du problème. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont authentifiés par la bulle, qui, quand ils disent « ici je sens » ou « ici je sais » ou « ici je vois », la bulle dit « il se passe quelque chose », enfin dit « fait sa marque », eh bien, ces gens sont, on pourrait dire, authentifiés. Ils échappent aux soupçons, en tout cas entre eux. Ils peuvent, parce que la méfiance qui les entourait, ça peut être des charlatans, c'est aussi une malédiction, c'est aussi un mal dire. Ça veut dire qu'ils ne se font pas confiance en eux-mêmes, ils ne font pas confiance aux autres. Ici, ils savent qu'ils peuvent faire confiance dans les autres, ils n'ont plus besoin de tricher. S'ils sont en forme et que ça ne marche pas, ils peuvent dire « je suis en forme, je suis pas en forme et ça ne marche pas, je n'ai pas besoin de faire comme si ». Et bon, se produit dans ce milieu une culture de ces dons qui, tout au long du roman, ne les expliquera jamais, mais qui leur permettent de recruter d'autres doués, etc. Et bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, elle devient beaucoup moins intéressante par la suite, puisqu'ils deviennent une des grosses consortiums terrestres. Mais vous voyez que là, effectivement, c'est pas une explication. Si à science-fiction, c'est bien au sens où il y a repérage de ce problème qui participe à toutes les cultures, de dons, de manières de savoir, de percevoir, d'être sensible, sortant de l'ordinaire. Eh bien, non pas par, ce n'est pas la science la clé, c'est le milieu et la manière dont dans ce milieu cela se cultive. Cela peut être détruit, cela peut devenir monstrueux, cela peut devenir remarquable. Affaire de milieu, affaire d'écologie. William James disait que celles qui étaient des saintes, qui étaient effectivement des saintes hier ou au Moyen-Âge, sont aujourd'hui des internées. Enfin, elles, leurs filles. Leurs filles, sont-ce les mêmes? Non. Avaient-elles le même problème? Peut-on le dire? En tout cas, ça a été, pour parler comme Didier Debèze, problématisé autrement par leur milieu. Donc ici, et c'est là qu'on entre en SF, le non-savoir n'est pas un manque de savoir, mais signale la nécessité de cultiver et la possibilité de détruire. Jeu de ficelle et soin des ficelles, parce que cela peut être détruit. Alors, SF, dont fait scientifique, c'est un peu étrange de... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce genre qu'on appelle science-fiction? Si, comme on le dit souvent, la rationalité scientifique désenchante le monde, par exemple, on croyait que c'était des saintes, nous savons que ce ne sont que des hystériques, quand vous entendez « ne que », c'est censé être... Le verdict enfin rationnel. Si on s'arrêtait là, cette rationalité scientifique qui désenchante le monde, SF, la science-fiction, ne serait qu'un amusement. Le fait scientifique, par exemple, ce serait la possibilité de produire une lumière laser, et là on comprend ce qu'on fait, c'est pas comme c'est pas des simples corrélations. Et de là, sabre à laser, etc., etc., tchoum, 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 la guerre de l'espace. Mon intérêt, c'est pas cette espèce de ruban, enfin, d'instrumentalisation de possibles vaguement inspirés des sciences, c'est ce que Didier Debèze appellerait de l'imaginaire, c'est-à-dire toute chose reste égale et on ajoute un petit motif. Mais il n'y a pas de travail du motif. Mon intérêt, c'est l'idée d'une relation forte et d'une relation qui passe effectivement par quelque chose de l'ordre d'une culture de l'imagination. Et je vais en parler sous l'aspect de l'expérience de pensée. Vous allez le voir, ça implique une différence entre les sciences, une différence forte. Des sciences expérimentales, théoriques expérimentales comme la physique, on peut dire que là, l'expérience de pensée a joué un rôle primordial, je vous en donnerai une. Elle coïncide avec l'origine de ces sciences, cette imagination de l'expérience de pensée. Dans les sciences sociales au sens large, très large, on peut y comprendre, dès qu'il est question d'humains et de leurs relations, donc... y compris la psychologie et la psychiatrie, c'est un des sens qu'on peut donner aux sciences sociales. L'expérience de pensée est souvent quasi absente. Là, on peut parler d'une science qui souvent désenchante les faits, la critique, le sérieux. L'hypothèse qui me guide, c'est que la science-fiction marque et correspond à cette absence d'expérience de pensée, comme si c'était avec la science-fiction que s'imaginait, s'imaginait le corrélat de description scientifique, s'imaginait ce que aujourd'hui nous pouvons dire des sociétés humaines et de ce dont sont capables les humains ensemble, de la même manière que l'expérience de pensée expérimentale interroge ce dont sont capables, ce dont les physiciens feront leur objet. Donc, le fait, l'expérience de pensée quelque part manque dans les sciences sociales, et ce manque se traduirait par ces auteurs curieux qui imaginent dans ce domaine dont les sciences sociales font leur objet. On va revenir pourquoi cette différence. Mais en tout cas, c'est intéressant de regarder ce qu'est une expérience de pensée en physique, parce que vous allez tout de suite voir qu'il y a une différence. Première expérience de pensée, c'est de Galilée. Galilée pose le problème de comment des corps tombent, avec l'idée que finalement, si la Terre était en mouvement, hypothèse qui est dans l'air du temps, comme vous le savez, et comme Aristote nous a dit que les corps tombent par le chemin le plus droit, eh bien, si la Terre bougeait, on devrait voir des obliques partout. Donc la Terre ne bouge pas. Et expérience de pensée, oublions la Terre, prenons un bateau en mouvement, un mât, et laissons tomber une pomme. Où va tomber la pomme? Là, nous savons que le bateau bouge. Où va tomber la pomme? Les aristotéliens diront derrière le mât, bien sûr, puisque le bateau, lui, bouge. Et Galilée dit erreur, au pied du mât. Et la notion de la physique moderne du mouvement est née de là, c'est-à-dire du fait qu'il faut concevoir que même si la pierre est déconnectée du mouvement du bateau, elle continue néanmoins le même mouvement qu'elle avait avec le bateau tout en tombant, et donc tombe au pied du mât puisqu'elle a continué. Nous le savons maintenant, puisque si ce n'était pas le cas, à chaque fois qu'on saute dans un train, hop, le train filerait sous nos pieds et on se retrouverait en arrière. Donc on est bien habitué, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les bateaux, justement, à l'époque, un bateau. Non, mais vous vous rendez compte le coup que Galilée a fait avec son argument? Ouais, un bateau, il y a des vagues, il y a du vent, il y a etc. La pomme, elle va tomber n'importe où, de fait. C'est une expérience de pensée. Pour que l'argument se déploie, il faut vider le monde. Il faut le raréfier pour que subsistent les seules conséquences intéressantes qui intéressent le physicien de son hypothèse. C'est donc un monde purifié qui permet de dramatiser par la fiction de ce monde, de cette purification, la différence que fait cette hypothèse avec une autre, la différence que fait la manière dont nous concevons le mouvement. Prenons maintenant ce que les sciences sociales ont pu produire qui sont de l'ordre d'une expérience de pensée. C'est William James, d'ailleurs, je crois. Il avait dit « Imaginons que le bonheur de toute une société dépende du malheur d'un seul. » D'un seul quelconque. Que ferions-nous? Est-il moral d'accepter d'être heureux à ce prix? Le bonheur de 600 000 personnes payé par le malheur d'un seul. Eh bien, la grande auteure de science-fiction, Ursula Le Guin, dans une superbe nouvelle, a repris cette idée. Sauf que là, au lieu de s'arrêter à ça, elle décrit ce monde et elle insiste, elle dit, elle s'adresse au lecteur, elle dit, et j'insiste, c'était pas un bonheur stupide, c'était pas un bonheur de consommation, c'était un noble bonheur qui était celui des habitants de la ville d'Omela. Au fond de la tour, il y avait un enfant qui mangeait misérablement, était couvert de plaies et resterait là toute sa vie. Celui qui était la condition pour le bonheur de tous les autres. Et tous les autres devaient venir au moins une fois dans leur vie voir cet enfant, voir celui grâce à qui, mais il n'avait pas choisi, c'était pas un héros, celui qui était ce par qui ils étaient tous heureux. Et puis, dit-elle, de temps en temps, la nuit, on entendait des pas. On entendait des pas qui s'éloignaient, des gens quittaient Omela, Les gens ne pouvaient plus supporter. Nul ne sait où ils allaient. On dit qu'ils savaient, mais nul ne sait où ils allaient. Et ça se termine là. Vous voyez la différence? Là, c'est un monde qui est apparu. C'est un monde avec cette hésitation. Ils ont fait le choix, mais certains quittent Omella. C'est ceux qui quittent Omella, le titre de la nouvelle. Bon, eh bien, un de mes des étudiants qui ont fait sa thèse avec moi a repris cette chose et a dit non, Ursula Le Guin ne va pas encore assez loin. Il a repris le motif. En disant, il s'agit, et il l'a repris sur le mode de Donna Haraway, dont l'un des dires est, il faut rester avec le trouble. Il faudrait pouvoir trouver une troisième position où des gens ne quittent pas Omella, mais restent avec le trouble et avec l'espoir qu'un jour, peut-être, on réussira à problématiser la situation autrement et à sortir de ce dilemme fait pour être tragique. Rester en entretenant non pas l'espoir fou, mais la confiance que la question pourrait être résolue autrement. Troisième motif, vous voyez, un nouveau motif. Voilà exactement ce par où, parfois les philosophes, quand ils ont de bonnes lectures, certainement les romanciers, peuvent transformer quelque chose qui prenait trois lignes et qui sidérait une victime innocente comme condition du bonheur général, est-ce moral ? Jeu de ficelle, ne pas accepter la formulation. Ne pas accepter la formulation du motif, c'est pas qu'elle soit mauvaise, c'est simplement qu'elle ne fait pas autorité, qu'elle ne peut pas interdire à d'autres doigts de faire autre chose avec ce qui est proposé. Donc je reviens à la question, pourquoi n'y a-t-il pas d'hypothèse ? Pourquoi est-ce un jeune philosophe ? Pourquoi est-ce un romancier de science-fiction ? Pourquoi est-ce que dans les sciences sociales, il y a si peu d'hypothèses actives, d'hypothèses productrices, de production d'hypothèses et de savoirs sur ce dont pourraient devenir capables les humains ? Pourquoi les explique-t-on plutôt par des habitudes sociales ou des soumissions de toutes sortes, du gène au genre. Pourquoi on combat ce qui ne serait qu'illusion au lieu de fabriquer des savoirs qui permettent de cultiver des forces? Des forces qui, comme pour l'hypnose, cultiver la singularité de ce rapport magnétique. Et ça va très loin, ça intervient dans nos histoires. Dans les années 80, un mouvement qu'on appelait écoféministe, qui était un mouvement activiste, s'était constitué de femmes, il y avait aussi d'hommes, pour transformer en action la peur qui régnait à cette époque-là, où la guerre atomique semblait vraiment nous pendre au nez au début des années 80, le début de l'ère Reagan et Thatcher. Eh bien, l'écoféminisme aujourd'hui est un mouvement répertorié, académique, critiqué, discuté, est-il essentialiste, etc. Il a survécu, il existe des sorcières, mais il était intolérable à l'université, dans l'académie, parce que ces femmes, beaucoup de ces femmes, tiraient leur puissance de transformer leur peur en action, en raison d'agir et d'inventer des modes d'action. Elles le tiraient de rites, et de rites qui invoquaient quelque chose qu'elles appelaient la déesse. Illusion insupportable. La critique a été merveilleuse, mais je veux dire, le mouvement est devenu un mouvement qu'on pourrait appeler idéologique parmi d'autres. Les sorcières, elles, ont continué. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de ces sorcières, il y a rencontre la science-fiction. L'un des romans qui m'ont le plus impressionné, je vais te dire ce que c'est après, a joué un rôle fort, discuté d'ailleurs, pas accepté, discuté dans la culture de ce qu'on appelle les sorcières néo-païennes. C'est une culture qui n'est pas de croyance. Quand je vous ai dit que ce n'est pas une question de croire à la déesse ou pas, c'est là aussi une, comment dirais-je, une expérimentation sur comment devenir capable de, faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire de résister, de faire passer de la joie là où règne la peur et la tristesse. L'enjeu, c'est donc devenir capable de changer, devenir capable, disent les sorcières, de faire le travail de la déesse. Comment explorer, grâce à ces rites, de nouvelles possibilités de percevoir et d'être affecté? Eh bien, toute cette culture qui se pose cette question que les sciences sociales ne posent pas, et qui pourrait pourtant nous être intéressante, je l'ai rencontrée en lisant un roman de science-fiction de Marianne Zimmer Bradley, Les Brumes d'Avalon, qui a été véritablement, non pas une Bible, parce que ce n'est pas une religion du livre, mais une référence de discussion pour les sorcières américaines. Mais en français, voilà, vous pouvez le lire, malheureusement. Le roman a été adapté, il est devenu un roman de gare. Notre culture, comment dirais-je, ne peut pas plus admettre que nos académies qu'il s'agisse de discussions sérieuses, qu'il s'agisse de choses sérieuses. C'était trop long, ça a été haché. Même on a ajouté des sentiments contemporains. Bon, qu'est-ce que j'ai appris là? Qu'est-ce que j'ai appris comme qui m'a bouleversée en tant que philosophe, comme DDD m'a aussi bouleversée en tant que philosophe sur d'autres, mais de manière SF dans les deux cas. J'y ai appris comment on pouvait redécrire le triomphe du christianisme, parce que c'est la réécriture du roman des Chevaliers de la Table Ronde, mais cette fois-ci c'est Morgaine qui est la sorcière celte qui est au centre de l'histoire. Comment on pouvait décrire l'éradication d'une culture par le triomphe du christianisme et comment cette éradication pouvait être comprise comme un triomphe de la culture de l'écrit sur la culture orale. La culture orale, elle doit être répétée. Elle doit être jeu de ficelle d'ailleurs. Elle doit être prise et reprise et re-reprise. Elle n'existe qu'à être entretenue sans cesse. Tandis que la culture de l'écrit, celle des prêtres chrétiens qui vont éradiquer la vieille religion, elle se dresse contre les erreurs de lecture. On n'a pas besoin de lire et de relire. La vérité existe. Et c'est à l'homme de la découvrir et non pas de la faire exister en l'entretenant, en la nourrissant. Une écologie de la vérité complètement différente. Eh bien, c'est en lisant ce roman de science-fiction que cela, comment dirais-je, que cela m'est devenu sensible. Et celle qui écrivait ça était elle-même prise dans une histoire de transformation qui se passait en Californie à cette époque-là, et mettait en fiction ce que cette histoire lui apprenait. Et parlait sur un mode qui faisait que ce dont cette époque californienne des années 80 était grosse, devenait matière à penser, à discuter, à savoir, et non pas à démonstration. C'est pourquoi je dirais que je comprends tout. Vous voyez, un autre type de. On dit que les sciences sont réalistes au sens où elles essayent de déchiffrer le réel. Ursula Le Guin, que j'ai déjà citée, dit qu'elle, alors qu'elle a reçu un prix, qu'elle et ses camarades auteurs de science-fiction sont des réalistes. mais des réalistes d'une réalité plus vaste. C'est-à-dire d'une réalité dont les composantes, c'est pas que nous ne les connaissions pas, c'est que nous avons une réalité en cours de composition. Et ce qui compte, c'est pas savoir de comment l'univers se compose, mais comment cette composition peut être ongoing. Vous retrouvez les motifs, jeu de ficelle, soin des ficelles. Comment peut-on faire avec un motif, d'autres motifs? Et cette confiance, d'autres manières de faire monde sont possibles. Le Guin, ça a été bien traduit parce que Le Guin est une... même les Français la respectent. A écrit un cycle qui s'appelle Terre-Mère. C'est un cycle où, il existe, où la magie existe. Mais... attention, ce n'est pas la magie au sens où une magicienne se promène et transforme vous en tortue, vous en grenouille, vous en prince charmant, etc. Ce n'est pas cette magie-là, ce n'est pas cette magie surnaturelle bébête. Non, c'est une pratique et un art de transformation, mais qui pose des problèmes. Ça fait toute une culture, ça fait tout un monde et un monde intéressant. Où la magie pose des problèmes déontologiques, est problématisée, suscite des doutes, suscite des dilemmes, fait culture. Donc vous voyez, la question « croire à la magie ou pas » devient tout à fait secondaire. Ce qui est intéressant, c'est un autre monde et une autre culture autour de la magie. Comment faisons-nous culture? Et là, peut-être vous voyez pourquoi... il n'y a pas de SF en sciences sociales. Si en tout cas les sciences sociales suivent le modèle des sciences physiques, chimiques, etc., c'est-à-dire cherchent des savoirs faisant autorité, des savoirs qui se présentent comme autosuffisants. Nous savons désormais que, point, 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 quelle que soit l'écologie, ce sera vrai, point d'exclamation. Non, en sciences sociales, il ne pourrait pas y avoir d'expérience de pensée parce qu'une hypothèse ne peut pas aboutir à un « nous savons désormais que » point. Car une hypothèse ne peut, comment dirais-je, une hypothèse ne peut pas être mise en scène dans le même monde, dans le type de monde raréfié, purifié, où il y a un point final, « nous savons que » point. Une hypothèse peut intervenir, une imagination ne peut intervenir que dans un monde dense, un monde de répercussions, un monde de conséquences qui prolifèrent et interfèrent les unes avec les autres, avec des gens qui se posent des questions, qui discutent, qui doutent. Il ne peut jamais y avoir de point final. Vous avez vu qu'avec Le Guin, les gens quittaient Omella, certains quittaient Omella la nuit sans rien dire, sans discuter. Mais ce n'était pas un point final. Le doctorant a dit « on ne peut pas arrêter là. On doit laisser un point ouvert. On doit éventuellement faire une suite. » Donc, dans les mondes des sciences sociales, le point final est toujours un point de mutilation. De la même manière, la réussite en sciences expérimentales, c'est ce qu'on appelle un fait SF, capable de mettre d'accord les spécialistes. Mais l'écologie de ce SF, c'est ce lieu contrôlé qu'on appelle le laboratoire. La réussite de la science-fiction, c'est un roman, et un roman qui s'adresse non pas aux spécialistes, mais aux lecteurs, à des lecteurs à qui beaucoup est demandé, parce que ce n'est pas des livres simples à lire, mais qui, comme je l'ai fait avec Les Brumes d'Avalon, comment dirais-je, apprennent à résister à l'idée qu'il y a des points finaux. Nous sommes dans l'ordre du so far. Jusqu'ici, on n'a pas pu dépasser cela. Jusqu'ici, on est bloqué. Mais restons avec le trouble. Restons avec ce qui trouble. Il y a peut-être d'autres manières de poser les problèmes. La réussite de la science-fiction est de donner conscience dans la non-nécessité de ce monde. Et en cela, je dirais qu'elle est aussi la réussite de DDD. DDD a quelque chose, une expérience de pensée, a quelque chose d'enquête aussi, sur de quoi sommes-nous capables, pourrions-nous être capables aujourd'hui, et de quoi pourraient être capables, de quoi sont d'ores et déjà capables ceux qui sont touchés par cette maladie. Les personnes même touchées directement et tous leurs entourants. Et la réussite de DDD, Alice l'a dit, ça mousse. Ça mousse au sens où ça donne des idées aux autres. Ça, même les journalistes sont heureux que DDD existe, alors que généralement les journalistes ne sont pas heureux de grand-chose. Donc DDD, comme la science-fiction, prend le parti d'une réalité plus vaste, d'un nous ne savons pas, qui n'est pas une ignorance, mais qui donne l'appétit d'explorer, de raconter d'autres histoires, de nourrir d'autres possibles. Juste une remarque pour finir, parce que je crois qu'il est temps de finir de ce point de vue-là. N'accusons pas les sciences sociales. N'accusons pas les sciences sociales. Il y a une autre différence quant à ces réussites. C'est que quand les sciences expérimentales réussissent, elles changent l'écologie, elles rencontrent des partenaires qui les accueillent à bras ouverts, l'industrie notamment. Possibilité de modifier génétiquement les plantes, vive les OGM. Ça veut dire que, comment dire, et là, est-ce une réussite? En tout cas, le type de réussite qu'elle recherchait a changé d'écologie. On ne sait plus ce que vont faire les OGM dans le monde et on ne peut pas dire que les sciences biologiques, par exemple, nous aident beaucoup. Au contraire, elles présentent les avantages et elles n'ont pas beaucoup aidé à alerter quant aux inconvénients. On peut dire que les sciences expérimentales sont parties liées avec le caractère relativement insoutenable, non pas relativement, désormais on peut dire radicalement insoutenable de ce qu'on appelle le développement. Et ce caractère insoutenable marque l'absence de ceux qui ont l'expérience des dimensions non prises en compte par l'innovation, c'est-à-dire des dimensions nécessaires pour faire la différence entre le monde raréfié du laboratoire et le monde dense où l'innovation, comment dirais-je, va jouer. Ça veut dire que si les sciences sociales avaient posé la question de ce que les gens qui grognent et subissent peuvent, ce dont ils peuvent devenir capables, s'ils avaient cultivé des savoirs qui rendent capables les gens de poser les questions qui les concernent au lieu de se soumettre, eh bien, ils auraient été des terribles empêcheurs de développer en rond. Des sciences sociales qui n'auraient pas mimé les sciences expérimentales, qui auraient plutôt été du côté des questions que développe la science-fiction, c'est-à-dire de quoi peuvent devenir capables les gens, comment peuvent-ils faire monde. Ces sciences sociales-là, comment dirais-je, nous manquent, mais elles ne nous manquent effectivement pas par hasard. Disons que l'écologie dont elles avaient besoin pour se développer, les alliés dont elles auraient eu besoin, eh bien, c'est pas par hasard qu'ils n'appartenaient pas à la scène. Donc, c'est pour vous dire, de la même manière, la psychiatrie, etc., les malédictions, les mauvaises manières de parler sont aussi toujours des manières qui, comment dirais-je, empêchent cette récalcitrance joyeuse et productrice de possibles, d'explorer ce dont elle peut devenir capable. Donc, voilà. Pour moi, DDD et la science-fiction m'ont aidé à concevoir, à ne pas désespérer, c'est-à-dire à concevoir l'idée d'une, de la possibilité d'une démocratie résistante, récalcitrante et imaginative. Et cette possibilité, elle est nourrie par le fait que l'imagination, contrairement à l'imaginaire, eh bien, suscite une joie. Il y a de la joie à DDD, même si les situations sont difficiles. Il y a de la joie en découvrant que les choses ne sont pas bouclées comme elles se présentent, mais ne sont bouclées que parce que personne n'a posé la question « Comment est-ce que ça pourrait être autrement ?» Je vous remercie. Personne n'a reçu les moyens de poser la question.
Est-ce que tu as encore assez d'énergie pour recevoir quelques questions ?
Bah oui, hein. Le cerfeuil, le chevreuil ne m'aura pas.
Voilà. Merci. Je voulais, alors, le thème était la science-fiction, et en même temps, vous avez parlé de magie. Et quand vous avez parlé de science-fiction, finalement, vous parliez de magicienne ou de spectacle magique, enfin je sais pas, de situation magique, voilà. Donc la question c'est, est-ce que la science rejoint parfois la magie ? Je sais pas, voilà, c'est pas une question en fait.
Non, il est vrai qu'il y a beaucoup de science-fiction qui sont, qui sont plutôt technologiques ou destroy. Et c'est pas celle-là qui m'inspire. C'est pas, pour moi, c'est pas celle-là qui reprenne la dimension aventureuse, expérience de pensée des sciences. Donc magie, oui, mais magie au sens de cette réalité plus vaste d'Ursula Le Guin. Nous ne savons pas ce qu'est la magie finalement. La magie dans notre monde, c'est ce qui c'est ce que les lois de la nature rendent impossible. Mais qu'est-ce que c'est les lois de la nature ? On ne sait pas très bien non plus. La magie, on n'en veut pas, c'est tout. Et donc, explorer une réalité plus vaste, ce que cherche la science-fiction qui m'intéresse, implique un certain type de magie, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle ici le surnaturel. Ça veut dire une réalité plus vaste. Ça veut dire des choses que nous ne cultivons pas et que donc nous ne pouvons pas imaginer ou lorsque nous l'imaginons, donc, dont nous ne savons rien parce que nous ne le cultivons pas. Donc la question est toujours de quoi pouvons-nous devenir capables ? Et le mot magie est là pour cet inconnu, qui est l'inconnu des sciences expérimentales aussi. De quoi un électron, de quoi une cellule, de quoi, etc. Est-il capable ou peut-il, dans certaines conditions, devenir capable ? Il n'y aurait pas de science si cette question n'était pas centrale.
Et alors, enfin, moi, j'ai vu un film que vous, dans lequel vous apparaissez avec Léon Chertok. Mm-hmm. Et pour le coup,
C'était sur l'hypnose.
C'était sur l'hypnose. Et les phénomènes dont ils ont parlé peuvent sembler magiques, d'une certaine manière. Et je voulais savoir... Parce que, finalement, ça aborde un peu le même sujet, puisque c'est finalement une science qui est une science sociale... psychanalyse ou la psychologie. Et ben je sais pas, et finalement comme vous dites, on n'a pas cultivé finalement la connaissance de ces phénomènes là
oui, mais ce que vous avez dit, c'est rigolo, c'est peut sembler magique, ça veut dire, et je vous critique pas, hein, c'est on a un bœuf sur la langue, hein, dès que peut sembler magique, ça veut dire qu'on saurait ce que c'est la magie. et que ça pourrait sembler magique, mais on ne sait pas ce que c'est la magie. Moi, je préfère dire et suivre Starhawk et les sorcières néo-païennes en disant peut-être que la psychologie serait intéressante si on commençait par se dire tiens, j'aime bien celle-là, la supplique, fais attention. Vous savez, vous avez tous dit à quelqu'un, fais attention. Eh bien, c'est un appel à une transformation que l'on ne maîtrise pas et dont on sait que la personne à qui on s'adresse ne la maîtrise éventuellement pas non plus. Fais attention, fais appel à un événement de transformation. Eh bien, on pourrait dire que c'est de la magie qu'il est question avec les changements de faire attention. Avec le moment où soudain, on perçoit qu'il y a là quelque chose, mais le « on » qui perçoit s'est déjà modifié, parce que de le percevoir l'a modifié. Donc, la magie, elle peut être... Ce qu'on appelle magie est un spectre dont certaines parties, nous les connaissons fort bien, mais nous les méprisons. Nous disons, ça, c'est juste faire attention, hein. Vous voyez, c'est ça que une réalité plus vaste, c'est pas une réalité étrangère qui flotterait. Ça, c'est l'imaginaire. Non, une réalité plus vaste, ça veut dire, elle est pas loin. Simplement, nous n'avons pas pris les moyens de la faire nôtre, pas au sens d'appropriation, mais au sens d'échange, au sens de avec cette réalité, de vivre avec cette réalité. Donc, on ne sait pas ce que c'est la magie, puisque la seule chose qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas de la magie, c'est de la magie, mais ça traduit notre ignorance autosatisfaite du fait que nous ne croyons plus à la magie. Et ça, les sciences sociales ne nous ont pas troublés. Et donc, l'un des grands avantages de la science-fiction, c'est qu'il rend la magie intéressante.
Oui. Bon, merci beaucoup. Et je voulais revenir sur la, mais c'est pas grave, sur le test. Je sais pas trop comment articuler ça, mais le test génétique.
Ah, je croyais que c'était celui. Hello.
Donc merci. Et j'ai été frappé par ce départ sur le test génétique. Et je voulais, enfin, bon, le test. Au fond, le diagnostic ou le résultat. Que moi j'ai vu en allemand, sur une lettre, sur un papier, quoi, qui était donc, si vous savez lire l'allemand, oui ou non, et la réponse, au fond, c'est oui ou non. Et ce dont on parle beaucoup en termes de, ce dont tu as parlé en termes de fabrication de possibles, ça veut dire aussi, est-ce que le corps médical propose la main et les ficelles pour. Il y a des démarches qui sont faites, mais ce que j'ai découvert dans ce cadre-là, c'est pas pour en faire une histoire personnelle, mais c'est que justement, c'est comment ne pas en faire une histoire strictement personnelle, c'est qu'au fond, le fait de ne pas avoir la chose qu'on pourrait avoir justement du fait de sa mère ou de son père ou de sa grand-mère, peut être un problème. Et dans quelle mesure est-ce qu'on nous offre la possibilité de faire quelque chose avec le fait de ne pas avoir? Ça, c'est que tout à coup, c'est comme si les possibles qu'on s'était construits, évidemment, c'est tout des histoires, des trajectoires, tout à coup s'effondrent. Et je ne sais pas si c'est un peu comme si, c'est, évidemment, ça revient. Enfin, mais est-ce qu'on ne peut pas, disons, si j'essaie d'en faire une question avec un point d'interrogation, mais est-ce que dire les choses comme ça ne permet pas d'élargir la possibilité de se relier à la nécessité de créer des possibles avec la question des maladies rares, au fond. C'est-à-dire que la plupart des gens ne l'ont pas. C'est pas, il y en a qui l'ont, et puis les autres, ben bon, on ne sait pas. Mais c'est que la plupart des gens n'ont pas cette maladie.
Oui. Mais, donc, quand vous parlez de ne pas l'avoir, ça veut dire de ne pas être... vous ne parlez pas de personnes à risque qui auraient pu l'avoir parce que...
Ça, c'est le premier cercle qu'ils ont.
Oui, mais dans ce cercle-là, elle n'est pas rare, puisque c'était une chance sur deux. Donc il y a deux manières. Ceux qui auraient pu l'avoir, moi, je dirais qu'ils sont touchés par elle, puisque puisque justement, contrairement au quidam, pour qui c'est quelque chose d'absolument théorique, là, ils auraient pu l'avoir. C'est ce possible qui fait la différence. Donc, c'est une différence qui me semble-t-il, mais ça, je ne vais pas entrer immédiatement dans des discussions qui appartiennent à ceux qui sont. Je suis parmi ceux qui sont concernés par cette maladie au sens où j'appartiens à DDD, mais je ne fais aucune autorité quand je réponds à une question sur quelque chose qui regarde immédiatement les pensées, hésitations, spéculations, non seulement de DDD, mais de tous ceux avec qui DDD peut travailler. La seule chose que je peux dire, c'est que ça fait partie de l'écologie de la maladie, justement d'articuler ces positions diverses, depuis celui qui n'en a jamais entendu parler, depuis le plus extrême, jusqu'à tous ceux qui, sur un mode ou sur un autre, sont touchés par elle. Être concerné, c'est intéressant comme terme, être concerné, ça veut dire... ceci me concerne au sens où ceci désormais fait partie de ma manière de comprendre le monde, de la réalité. Ceci a ajouté quelque chose à une réalité qui est du coup plus vaste. Et donc, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés, une écologie peut les articuler. C'est ça une écologie, c'est articuler tous ceux qui se trouvent concernés, c'est mesurer la portée. Et évidemment, nous sommes très loin de ça aujourd'hui. Mais encore une fois, dans d'autres cultures qui honorent les êtres, c'est aussi de la magie, ça, honorer les êtres, des êtres invisibles, les djinns ou autres. Il y a des rites qui reconnaissent ce réseau d'êtres concernés et qui produit du possible à partir de lui. Donc, on pourrait écrire de la science-fiction où, justement, peut-être pas Huntington, mais quelque chose dans le pays, dans le monde que la science-fiction explorerait, il serait évident, on rencontrerait par hasard dans un chapitre, qu'il est évident que dans telle situation, il y a ce type de réunion et tout à coup de l'imagination, que l'imagination se mettrait en route. Et c'est ça la science-fiction SF. C'est-à-dire développer des dimensions de la situation qui est la nôtre, mais qui aujourd'hui, à notre époque, insiste pour être pensée. Il y a une historicité profonde de la science-fiction. Des problèmes qui faisaient science-fiction dans les années 50 ne sont plus du tout les mêmes problèmes qui font science-fiction aujourd'hui. Parce que c'est comment nous sommes capables de problématiser, de réimaginer les possibilités de faire monde qui sont à chaque fois mises au travail par la science-fiction, par certaines science-fictions.
Isabelle, j'avais une petite question. Moi, je suis ici, juste ici.
Voilà.
Voilà, rebonsoir. Donc moi, il se trouve que je fais partie aussi des gens qui ont été concernés par Ding Dang Dong, par un endroit en tout cas, par une pratique. Et du coup, ça m'a amené à, et ce soir, ça m'est paru encore plus clair, à te poser une question, peut-être par rapport, c'est aussi une question qui m'intéressait dans le cadre du Ding Dang Dong, parce que ce que ça a de particulier, c'est quand même que ça rassemble aussi des gens qui ont des pratiques qui sont quand même extrêmement diverses au départ, donc ça crée aussi un espace possible d'être concerné en ayant des pratiques qui sont... Quoi, il y a un écart entre les différentes pratiques qui est quand même important, tout en ayant une capacité, en tout cas, à les mettre ensemble, que moi, je trouve assez remarquable. Mais du coup, moi, ça m'emmène à te poser la question du rapport que tu entretiens avec l'art, Parce que la définition que tu donnes des potentialités, des attentes de la science-fiction, moi qui suis praticien, qui travaille dans le champ de l'art contemporain, j'ai envie de dire que ces agencements-là, c'est ce qu'on espère pouvoir faire lorsqu'on est en relation avec des œuvres ou avec des artistes qui sont dans ces pratiques d'art contemporain, c'est-à-dire l'agencement de mondes possibles et plus simplement des objets qui sont voués à la contemplation, c'est-à-dire des choses qui sont aussi des possibles spéculations de comment pourraient être les choses.
Oui, mais disons que quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme Fabrizio Terranova qui a donné à Alice l'idée de narration spéculative, qui est un des ancêtres de SF, sauf que c'est fiction spéculative, SF, mais aucune importance, sont pour moi importants. Du point de vue de la puissance de transformation que l'art pourrait avoir. Mais je sais aussi que dans la vie telle que je l'avais menée avec les rencontres que j'avais faites, j'avais appris à éviter j'ai appris à éviter autant les invitations par les architectes que par les artistes et que par les psychanalystes. Donc, des portes s'ouvrent et dans DDD, il y a des gens dont la pratique est artistique. Mais il y a une lutte à mener aussi.
Pourquoi vous avez appris à éviter les collaborations avec des architectes?
Oui, parce que les artistes et psychanalystes, ça va de soi, mais les architectes. Non, parce que les architectes, vous ne le savez peut-être pas, mais dès qu'il y a je suis sûre que les architectes sont déjà sur le problème de la narration spéculative ou de Dieu sait quoi. Je vais dire, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, les architectes sont sur le coup. Le problème, c'est qu'ils n'en font rien, sauf des articles dans des revues luxueuses. Très luxueuse, ils ont vraiment beaucoup d'argent. Donc, j'ai pas envie d'être de la matière à architecte.
Et pour les artistes, alors, pourquoi ?
Ça, vous pouvez répondre vous-même.
Si quelqu'un veut poser encore, on prend encore deux questions.
Est-ce que vous pourriez revenir sur le terme que vous avez donné au début de Donna Haraway, c'est speculative feminism? Est-ce qu'il y aurait une spécificité à qualifier la science-fiction de féministe et par rapport à cette capacité de transformation dont vous parlez? Est-ce que ce serait relié à une question de genre? Je pense par exemple cette race qu'invente Ursula Le Guin, man-woman en un mot, est-ce que la posture ou des stratégies féministes dans la science-fiction seraient reliées à une capacité de transformation particulière? Est-ce qu'il y a des spécificités à qualifier la science-fiction de féministe?
Mais disons que la position d'Haraway de ce point de vue-là, elle est très SF parce que... Je viens de lire un article d'elle où elle dit, d'une part, ça fait un certain temps que je n'ai pas utilisé thématiquement comment dirais-je, le mot féminisme. Mais ça ne veut pas dire que je suis post-féministe ou Dieu sait quoi. Non, c'est simplement que ce qui m'a de plus en plus intéressée, c'est par exemple les relations multispécifiques. Elle a toujours lutté contre l'antibiologie qu'il y a dans la notion le concept de genre. On peut ignorer, les relations entre espèces qui sont vraiment divergentes, comme elle et sa chienne par exemple, l'intéressent beaucoup. Mais il y a des situations où tout à coup la lutte des femmes, et notamment elle citait des cas de stérilisation forcée en Inde, etc., fabrique une porte de rappel et on se retrouve à devoir lutter pour l'abaisser de ce que deviennent les femmes dans nos mondes. Donc elle... Mais... ça, c'est pas spéculatif. Ça, c'est de la lutte. C'est de la lutte extrêmement concrète sur des... le féminisme spéculatif, d'abord, ça faisait un SF, mais c'est justement... je crois que c'est... Pour moi, c'est quelque chose que je rapprocherais d'un terme américain que je trouve très beau et que des féministes ont employé, qui est « yearning ». Les esclaves noirs américains employaient beaucoup ce terme. C'est très fort dans le black spiritual. Mon cœur « yearn », c'est-à-dire « désir », mais au sens... pas désirer un objet... c'est aussi un appel et un désir. Et il y a cette qualité de réalité plus vaste, de yearn, de désirer d'en appeler à une réalité plus vaste que celui où le problème est entre sexe et genre. Excusez-moi, ce n'est pas un problème qui me fascine, ça donne de la très mauvaise science-fiction. sexe et genre, c'est un peu pauvre. Et donc, l'aventure féministe est une aventure, au fond, dont l'un des axes est « nous ne savons pas ce dont les femmes pourraient devenir capables ». Et ça, c'est le féminisme spéculatif. Et de la même manière, nous ne savons pas de quoi les relations entre les humains et des non-humains d'autres espèces ou d'autres êtres, de quelles relations ils pourraient devenir capables. Nous ne savons pas aussi de quoi ces foutus codons CAG rendent les humains capables et pourraient les rendre capables. Et la question n'est pas de conquérir un savoir. La question est de faire vibrer ce « nous ne savons pas » pour ne jamais mettre un point final, mais toujours des points, 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 pour célébrer les nouvelles mains qui viennent faire de nouveaux motifs. Et le féminisme spéculatif, justement, c'est pour Haraway, c'est Haraway qui me disait « n'oublie pas que ce ne sont pas seulement des doigts, ce sont des appendices de toutes sortes qui viennent jouer dans nos jeux ».
Bonsoir, merci. J'ai été très interpellé par la question du motif. C'est très beau comme vous parlez et comme vous utilisez, je ne sais pas si c'est une métaphore, mais cette image des mains qui reprennent les fils et qui font des possibles qu'on n'avait jusqu'à alors pas imaginé. Mais je me demande qu'est-ce qui fait que ces mains ne viennent pas et simplement ne casse pas ce fil, ou ne le jette pas par terre. Qu'est-ce qui fait que ce désir de recréer des formes soit possible ? Est-ce la nécessité, comme dans le cas peut-être de ce qu'on vit ce soir, de comprendre quelque chose ou d'inventer des possibles ? Parce que dans le motif, pour moi, il y a toujours comme quelque chose d'une reprise de quelque chose qui était là. Et par exemple, quand on parle, quand vous parlez de magie, dans l'histoire de l'Occident, on a fait, surtout en France, on a fait table rase de beaucoup de choses. Et est-ce que casser ce motif est possible ? Et qu'est-ce qui motiverait les gens à remettre les mains pour faire autre chose, en fait ?
Je crois que le fait que je parle de cela, le fait que Haraway imagine SF, enfin, mette l'ensemble, cet ensemble, fasse jouer toutes ces versions de SF, fait partie de notre époque. Je ne crois pas que je me sens fille de notre époque. Et notre époque est assez spéciale. Avouez-le, je veux dire, c'est une époque où vraiment la question est... La question, je pense ici au réchauffement climatique, au désordre climatique et à l'ensemble de ces choses qui se précipitent vers nous sur un mode tel que les anciennes temporalités de l'imaginaire et des imaginations humaines ne sont plus de mise. Ce qui nous ronge, ce qui nous guette, c'est la possibilité de... Un peu comme à l'époque des écoféministes, c'est pour ça que je suis assez sensible à ça. C'est la peur et le désespoir. C'est le « à quoi bon ?» C'est le « il est trop tard ?» C'est le « nous sommes foutus ?» Et donc, c'est ce moment-là, et c'est ce moment-là où le terme « sophar » résonne tellement. Tout ce qui semble... dire que nous ne serons pas capables de nous en tirer est de l'ordre du sophar. Rien de ce que nous sommes censés savoir à propos des gens, ils ne seront pas capables de, les gens sont comme ça, mène aujourd'hui à la question « et donc on est foutu ?» Le sophar nous rappelle que nous ne savons pas de quoi les gens sont capables. Parce que les écologies qui ont déterminé ce dont ils seraient effectivement capables ici maintenant sont des écologies malsaines, sont des écologies qui, comme vous le dites, font que les motifs sont détruits ou bien sont répétés de manière monotone ou bien que le geste de reprise est un geste de déconstruction ou bien que le geste d'offre est une demande de fidélité, il y a toute une culture à réinventer, me semble-t-il, dans ces histoires de motifs, de gestes d'offre et de reprise, de liberté et de redevabilité, de continuité et de nouveauté. Il y a toute une culture et une écologie des relations à générer ou à régénérer, de manière beaucoup plus urgente aujourd'hui que peut-être dans le passé, parce que ce qui nous menace, c'est le « à quoi bon ?» C'est-à-dire l'idée d'une impasse. Et c'est peut-être une des choses qui fait que c'est aussi un des thèmes qui me lie à Ding Ding Dong, c'est que là aussi, on pourrait se sentir menacé par le « à quoi bon ?» À quoi bon, puisque l'histoire va mal tourner. Oui, mais elle peut être très intéressante, même si elle est douloureuse, et pour nous tous, ça tournera mal de toute façon, au sens de la mort. Mais ce qui nous attend peut être douloureux, mais peut être aussi extraordinairement intéressant. Et intéressant, c'est intéresser, se mettre entre. Nous pouvons nous intéresser les uns les autres.
Je pense qu'on va s'arrêter là, Isabelle, et te remercier vraiment beaucoup pour cette proposition. Merci à vous tous.